Bonjour à tous.
Comment allez-vous ce matin? Bon, pas trop la forme, hein, pour tout le monde. Ça va, Sylvie. Alors, ça fait déjà, je crois, presque un mois que nous nous sommes instruits à travers le livre de Jacques. Et ça se passe comment? Ça va? Ça se passe bien dans les cours? Le dimanche au culte, on se laisse toujours instruire? Pas au bon point d'être au niveau de l'overdose, personne ne se dit, il y en a marre de Jacques. Il commence à me gonfler, Jacques. Non, on n'est pas encore à ce point. Ça va jusque-là, tant mieux. De toute façon, quel que soit le livre que nous étudions, nous avons toujours le même objectif, c'est se laisser inspirer par Dieu. Alors parfois, c'est des douces caresses, des encouragements. Parfois, c'est des grosses corrections. Ce n'est pas toujours facile d'apprendre. Mais le Seigneur est le meilleur des pédagogues. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour l'entendre. Alors, aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Exode. Eh oui, je vous ai vu, désolé. Mais je me laisse guider par notre Dieu et celui-ci a attiré mon attention sur une histoire qui nous est contée dans le livre d'Exode. Une histoire que vous connaissez pour la plupart très bien. Une histoire que même ceux qui ne croient pas en Dieu connaissent, parce qu'on en a fait des livres, on en a fait des films. L'histoire du peuple de Dieu qui sort d'Égypte. L'histoire de Moïse. Alors oui, ce matin, je ne vais pas vous voir la face, je n'irai pas par quatre chemins. Ce matin, notre Dieu va nous mettre au travail. Alors si tu fais partie de ceux qui se disent, bon, je finis là, c'est le chauffeur à l'église, bouge tes oreilles, parce que Dieu va te mettre au travail. Par contre, si comme moi, tu as compris en lisant le livre de Jacques, que le moteur du chrétien, c'est une foi agissante, une foi agie, alors à travers ce message, laisse Dieu te montrer dans quel domaine il veut encore te voir agir. Alors oui, le message de ce matin ne va pas s'appuyer sur le livre de Jacques, mais ce message reste une suite. À ma dernière intervention, lorsque, rappelez-vous, je vous ai parlé à travers le livre de Jacques, au chapitre 7, verset 13 à 18, où Dieu nous a rappelé que lorsque nous passons par des moments difficiles, nous pouvons nous tourner vers notre Père céleste. Mais nous avons aussi à côté de nous une famille spirituelle qui pourra nous aider dans les moments difficiles, qui pourra nous supporter dans la prière. Et rappelez-vous, le Seigneur nous a montré que c'était la responsabilité de chacun d'entre nous, pas juste le pasteur, pas juste les anciens, chacun d'entre nous. Alors c'est un point que je voudrais approfondir avec vous en lisant quelques passages du livre d'Exode. Parce qu'il serait trop long de lire toute l'histoire qui vous intéresse, puisqu'elle commence depuis Exode chapitre 1 jusqu'à Exode chapitre 15. Donc on ne va pas lire 16 chapitres ce matin. Mais bien sûr, je vous encourage à en refaire la lecture si vous connaissez l'histoire à la maison, après ce culte, durant la semaine. Ne vous en privez pas. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit. Dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin de ta lumière. Alors ce matin, à travers ta parole, fais-nous grâce de ta présence, fais-nous grâce de ton Saint-Esprit, qui puisse ouvrir nos oreilles, qui puisse ouvrir notre intelligence et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, et afin que nous puissions entendre et retenir, pour ensuite mettre en pratique ce que tu nous as enseigné. Merci Seigneur. Êtes-vous déjà passé par un moment difficile? Oui,
ça peut déjà arriver.
Alors, je ne parle pas, par exemple, d'une petite quinte de toux qui vous empêcherait de dormir, comme c'est le moment pour moi. Petite quinte de toux qui s'acharnerait sur votre vocal, oui. Certes, c'est gênant, c'est pénible, mais grâce à Dieu, avec des bons médicaments, une bonne petite tisane, ça devrait passer. Je vous parle ce matin de la bonne grosse difficulté. Celle qui semble jamais se terminer. Celle qui semble jamais pouvoir se régler, ne pas avoir de solution. Ce problème qui agit sur votre physique, votre mental, votre vie spirituelle. Peut-être que certains d'entre vous sont même peut-être en plein dedans, en ce moment même. Alors oui, pour traiter de ce sujet, nous allons nous appuyer sur l'exemple du peuple d'Israël. Parce que, question adversité, je pense que ce n'est pas mal quand même. Ce peuple a vécu plus de 400 ans en tant qu'esclave sous la domination du Pharaon. Je ne sais pas dans ce que vous pouvez vivre. Si c'est pire, si c'est moins, je ne me permettrai pas d'évaluer le niveau de vos difficultés. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, 400 ans d'esclavage, niveau adversité, c'est chaud quand même. Alors je me suis posé la question suivante. Qu'a-t-il pensé Abraham quand Dieu lui a promis un pays luxuriant, une descendance à l'image des étoiles du ciel, mais après 400 ans d'esclavage? La Bible nous dit ceci en Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Je vais refaire la lecture. Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Voilà ce que l'Éternel disait à Abraham. Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits à l'esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Alors imagine. Dieu vous fait la même promesse. Comment réagiriez-vous? Prenez le temps d'y réfléchir. Hein? Quand vous entendez les paroles de l'Éternel, que retenez-vous? La fin, chargée de grandes richesses? Ou le début, esclave et opprimé durant 400 ans? Réfléchissez. Cela sous-entend que ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants ne verront ce pays. Nos enfants, nos petits-enfants, ils vont souffrir. Ils seront martyrisés. Comment Abraham a-t-il réagi? Je pose la question, est-ce que même il a averti le peuple? Il leur a dit, allez, venez, venez, le Seigneur nous a promis un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il leur a dit, mais il y aura 400 ans d'esclavage? Vous dites ça à quelqu'un, il n'a pas voulu vous suivre. 400 ans d'esclavage, c'est bien gentil, mais c'est bien pour les autres, moi. Vous seriez signé pour cela? Et pourtant, vous qui avez accepté Christ, vous avez signé pour quelque chose. En effet, nous vivons sur cette terre avec bien des difficultés, bien des souffrances. Et Jésus nous a prévenus lui aussi. En Marc, chapitre 10, verset 29-30. Marc, chapitre 10, verset 29-30. Jésus disait ceci. Si quelqu'un quitte à cause de moi de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, il recevra 100 fois plus d'à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, mais avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et au final, vous avez signé ou n'avez pas signé? Vous avez accepté ou n'avez pas accepté?
Parce que même si le Seigneur nous prévient qu'il y aura des souffrances, mais il nous dit aussi qu'à la fin, dans le monde à venir, il y a la vie éternelle. Nous lui avons dit oui parce que nous faisons confiance, parce que nous avons Dieu qui tient cette promesse. Mais bon, je parle. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Comment le peuple d'Israël, lui, il a pu traverser ces temps difficiles? Alors, ceux qui sont maintenant, ceux qui vivent, qui passent par des moments difficiles, je veux commencer par une bonne nouvelle. Dieu vous voit. Le peuple d'Israël avait déjà vu des pères, des grands-mères, des grands-pères mourir en esclavage. Rien ne leur laissait penser que pour eux ce serait différent. Il était fort probable que eux aussi, ils allaient mourir en tant qu'esclaves. Je pense que maintes et maintes fois, ils ont crié à Dieu, imploré son aide. Ils ont dû passer par des moments de découragement, penser que Dieu les avait oubliés, ou même peut-être douter que le Dieu de leur ancêtre n'ait jamais existé. Peut-être êtes-vous dans une telle situation. Peut-être vous pouvez dans les moments vous demander pourquoi Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché ai-je fait pour mériter tant de souffrances? Rappelez-vous, les épreuves ne sont pas forcément les conséquences d'un péché. Les épreuves peuvent être là juste des moyens pour Dieu pour nous faire grandir, pour nous protéger. Quand Dieu a annoncé la prospérité, la captivité, pardon, de 400 ans, ce n'était pas une sanction. Dieu, je le répète, l'a béni en lui promettant une prospérité digne des étoiles du ciel qui habitait un pays où lui serait le lait et le miel. Mais ce serait après 400 ans d'esclavage. Dieu en avait décidé ainsi. Constatez qu'en plus de crier à Dieu qui leur semblait sourd, les Israélites subissaient la soumission du peuple égyptien. Ce peuple égyptien qui croyait en plusieurs dieux, ce peuple qui paraissait riche, fort, puissant, dirigé par un pharaon vénéré lui-même presque comme un dieu. Toutes les conditions étaient réunies pour eux, pour les affaiblir, pour perdre la foi. Ne sommes-nous pas dans l'erreur? Peut-être que c'est eux qui ont raison. Ils ont plusieurs dieux, mais ils sont riches, ils sont puissants. Nous sommes esclaves. Si tu passes par des moments difficiles depuis trop longtemps, tu es chancelant, tu te sens hésitant, retiens une chose. Comme Dieu l'a dit à Moïse, en Exode chapitre 3, verset 7, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. Le Seigneur te dit ce matin, je vois ta détresse. Oui, j'ai entendu tes cris. Oui, je sais que tu souffres. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Mais ça, il faut le dire. Savoir cela ne suffit pas. Lorsqu'on est en plein dans les problèmes, c'est difficile. Ne soyez pas étonné si on vous encourage un frère qui passe par des moments difficiles et vous lui dites, t'inquiète pas, Dieu entend tes cris, cette personne peut vous envoyer malade. Ce n'est pas forcément ce dont elle a besoin. Elle le sait sûrement déjà. Elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'un soutien particulier. En Jacques, parce que nous allons rester quand même liés à ce livre, rappelez-vous qu'au chapitre 5, verset 16, il nous était dit ceci. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et voilà donc ce matin où je vous en venir. Ce peuple était dans la souffrance. Dieu s'est choisi un homme pour délivrer son peuple. Lorsque nous sommes en difficulté, nous passons par des moments difficiles. Le chrétien n'est pas invité à chercher à s'isoler, à lutter tout seul. Nous sommes invités plutôt à nous tourner vers notre Dieu, être à son écoute, car il peut choisir d'utiliser quelqu'un qui se trouve juste à nos côtés pour nous aider à surmonter ces difficultés. Voyons, qui était Moïse?
Moïse était cet enfant qui avait été sauvé des eaux, recueilli par la fille du Pharaon. Pharaon qui lui-même avait décidé de faire tuer tout garçon qui naîtrait en le jetant dans le fleuve. Moïse avait été élevé comme un Égyptien. Et Moïse, pourtant, se souciait du sort de son peuple. Mais attention, s'il est bon de vouloir aider, il faut s'assurer que nous soyons en mesure de le faire. Que s'est-il passé quand Moïse, pour la première fois, a voulu aider un frère? Est-ce que vous vous en souvenez? Lisons ensemble ce petit passage. Allons voir dans le livre d'Exode. Lisons Exode chapitre 2. Nous avons fait une lecture du... Allez, on va commencer au verset 11 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 2, verset 11 à 14. Il nous a dit ceci. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait d'un coup l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfuit dans le sac. Le lendemain, il revint et aperçut deux hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était évitée. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce passage. Il ne faut pas prendre part à un combat sans être préparé. Moïse partait avec de bonnes intentions. Il a voulu aider un frère hébreu qui se faisait battre. Mais il n'était pas préparé. En voulant faire le bien, il a fait le mal. Malgré ses bonnes intentions, il était pourtant conscient que c'était mal. Regardez son attitude. Il regarde à droite, il regarde à gauche pour s'assurer que personne ne le voit. Il savait que c'était mal. Et pourtant, convaincu qu'il faisait le bien pour aider, il a tué l'Égyptien. Comprenons aussi que le chrétien est observé, même quand il n'en est pas conscient. Le monde veut voir si nos paroles sont en adéquation avec nos actes. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et puis d'ailleurs, j'ai tout le contraire. Si effectivement il n'y avait personne, parce que Moïse l'a regardé à droite, à gauche, il n'y avait personne, comment la nouvelle a pu se faire? Comment la nouvelle a pu s'éviter? Encore un peu, il n'y avait personne. Encore un peu, c'est celui-même qui l'a sauvé, qui a raconté. On ne sait pas. Le chrétien est observé. Autre leçon à en tirer. Lorsqu'on commet une erreur, trop précise de devoir aider, il est difficile ensuite de redevenir audible. Il est difficile ensuite qu'on puisse nous faire confiance. Vous avez vu la réaction des hébreux. Qui es-tu, toi qui as pu tuer cet Égyptien? En Actes chapitre 7, verset 25, il nous a dit que Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais ils n'ont pas compris. Qui es-tu? Toi qui viens nous dire de ne pas nous battre et qui est capable de tuer l'Égyptien. Qui es-tu pour venir me conseiller? Toi qui la dernière fois a dit telle chose, telle chose, telle chose. Faisons attention afin de rester crédible aux yeux de ceux que nous voulons aider. Voyons maintenant quelles sont les qualités de celui qui doit aider. Celui qui doit aider, premièrement, c'est qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses propres forces. Une erreur que nous commettons souvent lorsque Dieu nous interpelle, c'est de douter. Suis-je la bonne personne. Moïse est passé par là. À 4 reprises, il a remis en cause le choix de Dieu. Au chapitre 3 d'Exode, verset 11, il dit ceci. Chapitre 3, verset 11. Nous restons dans Exode. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Moïse a un problème d'identité. Il ne sait pas qui il est. Qui suis-je? Et voyez ce que l'Éternel lui répond à Moïse. Sache que je serai avec toi. L'important, ce n'est pas de savoir qui il est. L'important, c'est de savoir avec qui il est. Nous ne sommes pas grand-chose, mais nous avons à nos côtés le Dieu Tout-Puissant. Il a fait toute la différence. Deuxième objection, verset 13, toujours chapitre 3. Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Moïse ici craint que l'on remette en cause les origines de son autorité. Qui t'envoie? Qui es-tu? L'identité de celui qui nous envoie ne doit faire aucun doute lorsque nous allons aider quelqu'un. Celui qui passe par des moments difficiles, celui qui a besoin de soutien, doit reconnaître en nous une personne envoyée par Dieu. Sinon, nous ne sommes pas crédibles. Celui qui a besoin d'aide n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Il a besoin d'un homme envoyé par Dieu. Cela aussi nous est mis en évidence la troisième demande de Moïse. Au chapitre 4, verset 1. Mais s'ils ne me croient pas, s'ils ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu, Moïse a été appelé à accompagner ces mots d'actes concrets, des actes miraculeux pour prouver qu'il venait de Dieu. L'identité de celui qui habite en nous, de celui qui nous guide, ne doit pas être juste dévoilé à travers nous. Ce n'est pas tout de dire, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Cela doit se voir, cela doit se démontrer à travers nos actes. C'est notre témoignage qui parle pour nous. C'est ce que Dieu fait à travers nous qui parle pour nous. Celui qui a été capable de faire telle chose dans ma vie, qui a pu m'aider, qui a pu me sortir de telle situation, c'est lui qui m'envoie. Tu me connais, tu sais que j'étais dans telle situation. J'en suis sorti parce que Dieu l'a béni. Il mettrait mon droit pour t'aider. Cela doit se savoir, cela doit se voir à travers notre témoignage. On peut enfin avoir des doutes sur nos compétences, quitte à se sous-estimer. Quatrième objection de Moïse. Chapitre 4, verset 10. De grâce, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Pourtant, c'est bizarre. En Actes, chapitre 7, verset 22, on nous parle de Moïse. Dans le Nouveau Testament, on parle de Moïse. Actes, chapitre 7, verset 22. Et il nous est dit dans Actes, chapitre 7, verset 22, Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Et il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Alors il raconte quoi, Moïse? Il exagère là quand même, hein? Quand il dit qu'il a la langue pâteuse. Mais voyez que là encore, l'Éternel n'entre pas dans son jeu. L'Éternel nous rappelle que l'important, ce n'est pas ce dont il est capable, mais ce dont Dieu est capable. L'Éternel lui répond. Exode chapitre 4, verset 11 et 12. Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Maintenant, donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Ce n'est pas le problème du Seigneur de savoir si tu as la bouche pâteuse ou pas. Si tu as la bouche pâteuse, il a les capacités de te donner l'aisance qu'il faut pour pouvoir parler. Pour terminer, malheureusement, il faut admettre que lorsqu'on est à court d'arguments, on se trouve quand même encore des excuses. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Et si je t'invite, va vers tel frère, va l'aider. Ah non. Il dit celui-là. Je ne m'entends pas trop avec lui, hein, Seigneur. On n'a pas envie. Que va dire Moïse à court d'arguments? Chapitre 4, verset 13. De grâce, Seigneur. Je t'en prie, envoie qui tu voudras, quelqu'un d'autre, tout, n'importe qui, pas moi. Et quelle est la réaction du Seigneur? Verset 14. L'Éternel se met en colère. L'Éternel se met en colère lorsqu'on exagère. On peut avoir des doutes. Et lorsqu'on commence à exagérer en cherchant des esprits qui ne sont pas valables, le Seigneur se met en colère. Alors le Seigneur a choisi de mettre aux côtés de Moïse son frère Aaron pour l'épouser. Et vous imaginez si le Seigneur avait choisi quelqu'un d'autre, à côté de quoi Moïse serait passé? Si Dieu nous choisit pour une tâche, ne faisons pas l'erreur de refuser. Servir Dieu s'accompagne toujours de bénédictions.
Amen.
Ne passons pas à côté de cela. Alors je veux que vous reteniez ce matin que premièrement, le chrétien qui veut aider comprend que la réussite de sa mission ne repose pas sur ce qu'il est, mais sur ce que Dieu est. Sur l'identité de celui qui l'accompagne et qui l'offre. Mais il y a un deuxième point. Il faut que le chrétien qui aide ait la foi. Est-ce que parmi vous, certains se souviennent de la première démonstration que Dieu a permis à Moïse de réaliser pour prouver qu'il venait de Dieu? Quelqu'un s'en souvient? Hein? La verge, oui, tout à fait. Lorsque Moïse a été appelé à travers ce buisson ardent, le Seigneur, comme preuve, lui a demandé de jeter sa verge. Et elle s'est transformée en serpent. Alors oui, quand j'ai réfléchi, je me dis, bon, si je vois un flamboyant avec des flammes et qui ne brûle pas, si j'entends la voix de mon Dieu qui me dit jette ton bâton, ben, je vais le jeter. Un arbre qui brûle, enfin qui est en flamme et qui ne brûle pas, j'entends la voix de mon Dieu, pourquoi je vais hésiter? Alors là, je me dis, bon, Moïse, c'est bien gentil, mais c'est facile quand même. Mais quand même, quand nous sommes sûrs de la présence de notre Dieu, on se sent fort. Mais constatez qu'ensuite, Moïse a été envoyé vers le peuple. Il a dû refaire la même chose. Lorsque par contre, on est envoyé dans le monde, si on perd la foi, si on est plus sûr que le Seigneur est là, on devient hésitant. Lorsque Moïse a dû faire la démonstration devant le peuple d'Israël, a-t-il été hésitant? Non. Il avait l'assurance de celui qu'il avait envoyé, qui était encore à côté de lui. Et il a jeté la verge pour faire la démonstration que le Seigneur était avec lui. D'ailleurs, un petit détail. Je ne vous le souhaite pas. Mais si vous arrivez à tomber nez à nez avec un serpent, je ne vous le souhaite pas. De quel côté allez-vous tenir le serpent? Alors, petit sondage. Vous l'avez tenu où ça? Où est-ce qu'on l'attrape? Bon. Il y a un deuxième qui dit je ne le tiens pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est très plus simple. Mais si on est dans une pièce, on ne peut pas s'enfuir. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez le tenir? Alors, on le tient où?
Par la tête.
Par la tête?
Par la queue?
Par la tête?
Derrière la tête.
Sachez que les professionnels vont vous dire, surtout par la queue. C'est au niveau de la tête. Parce que si vous tournez si vous le prenez par la queue, il se retourne et il est mort. Si vous saisissez la tête, pardon, là il est coincé. Et pourtant, vous vous rappelez où est-ce que le Seigneur a demandé à Moïse de tenir le serpent? Par la queue. Alors là, je réfléchis à la place de Moïse. Je réfléchis quand même. Tenir le serpent par la queue. Oui, le chrétien qui est appelé à aider doit être capable de faire preuve de foi en celui qui l'a envoyé. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas prêt à l'aider. Je vous l'ai dit juste avant. Ne soyons pas trop prompts à vouloir l'aider. Soyons prêts, préparés par notre Dieu. Un troisième point, le chrétien qui est doit être prêt à passer à l'action. Parce que aider ne signifie pas à lancer des conseils, oui, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il faut être prêt à se mouiller la chemise. Moïse n'est pas allé pour dire oui, faites ça, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, il vous a entendu, vous allez faire ça, ça, et tout ira bien. Moïse est allé au front. C'est lui qui était devant. C'est lui qui est allé devant Pharaon. Alors, soyons clairs sur l'idée de passer à l'action. Quelle est l'arme du chrétien? L'épée du chrétien, c'est quoi? La parole du chrétien. Où est-ce que le chrétien puise sa force? De la parole de Dieu. En Dieu, dans sa présence. Le chrétien qui aide est appelé à se tourner vers Dieu. C'est en Dieu qu'il puise sa force. Le chrétien qui aide est conscient que sans Dieu, il ne peut rien. Il ne se dépêche pas de sortir des versets, des conseils mitraillettes. On y va. Fais ça, fais ça, fais ça. Et attention, attention, aux professionnels de la procrastination. Alors, je sais, c'est un mot qui fait mal. Mais je suis suffisamment à l'aise pour en parler. Parce que je faisais partie de ces professionnels. Peut-être encore. Aux plus grandes dates de mon épouse, qui ne sait pas dire des choses, et puis une heure plus tard, c'est toujours pas fait. Et oui, procrastiner, c'est le fait de remettre à chaque fois à plus tard. Oui, je vais prier pour toi. Il aura peur d'aller jouer. Le chrétien qui aide, c'est un chrétien qui s'investit dans la lutte avec son frère. Il prend part à sa souffrance. C'est comme si lui-même vivait avec son frère à travers ses désirs. Galates 6, verset 2, nous dit ceci. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Dieu. Celui qui aide ne prie pas juste le jour le fait de lui partager sa souffrance. Celui qui aide passe du temps dans la prière, se soucie du frère en l'appelant pour avoir de ses nouvelles, pour savoir comment les choses évoluent. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça empire? Pour l'encourager à prier avec lui. Vous savez qu'il y a des difficultés qui n'ont rien à voir avec les concernés, ceux qui passent par ces difficultés. Il y a des luttes qui ont leur origine dans le monde spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et pour combattre ces esprits, il n'y a qu'un seul moyen, la prière. Celui qui aide passe du temps dans la prière. Il combat jusqu'au bout pour vous dire de son frère ou de sa sœur. Celui-ci ne combat plus tout seul. Lorsqu'il semble défaillir, tomber, l'ennemi ne prendra plus l'avantage. Parce que oui, lorsque je suis chancelant, il y a l'autre qui prie avec moi. Et ensemble, nous sommes forts pour lutter contre l'ennemi. Encore un autre point. Celui qui aide doit être suffisamment fort spirituellement. Vous savez, le seul fait de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. Le frère qui sait qu'il peut compter sur quelqu'un, sur le moment, il se sent plus léger. Mais attention, cela peut ne pas durer. Que vous est-il dit de la réaction du peuple quand Moïse a été envoyé par Dieu et allé leur parler? chapitre 4, quand vous allez lire l'histoire, au verset 31, il nous dit ceci. Après avoir vu l'épreuve, la verge et d'autres signes, il nous dit ceci. Le peuple fut convaincu. En apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Lorsque on sent que le Seigneur est là, on se sent plus fort. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque les difficultés continuent? Même des fois que ces difficultés empirent. Le peuple perd la foi. Commence à douter de Moïse. Est-ce bien Dieu qui l'a envoyé? Au chapitre 5, verset 21, voilà ce qu'il nous est dit. Le peuple, voyant que les corvées empirent, vont dire ceci à Moïse. Que l'Éternel constate ce que vous avez fait et qu'il en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Ceux qui avaient au tout début la foi sont déjà dans le doute. Celui qui est doit être suffisamment mature pour faire face lorsque sa position est remise en cause. Pour faire face des fois aux critiques de celui-là même qu'il cherche à aider. Moïse s'est posé des questions. Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Mais Moïse, dans ce moment de questionnement, a su se tourner vers Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, l'a encouragé. Moïse savait vers qui il pouvait se tourner. Remarquez encore une chose. Dieu avait pourtant détaillé son plan à Moïse. Et Moïse avait informé le peuple de tout ce que Dieu avait prévu. Donc il savait que Dieu allait endoucir le cœur de Pharaon. Il savait que ça n'est pas se faire d'un coup. Le fait de savoir ne suffit pas. Lorsqu'on est dans la souffrance, on peut perdre le pied, même si on sait que le Seigneur nous a prévenu que nous allons passer par des moments difficiles. Alors faisons attention à cette phrase toute faite. Les versets du type t'inquiète pas. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. T'inquiète pas. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il a déjà préparé un moyen pour t'en sortir. Cela fait 10 ans que le frère est dans la souffrance, tu lui dis ne t'inquiète pas. Tu lui dis c'est pour ton bien. Faisons attention aux mots que nous utilisons. Et pour ne rien changer, vous ne rien arranger, pardon. Avez-vous déjà remarqué ceux qui sont déjà passés par des moments difficiles? Que la sortie de crise est souvent précédée d'un moment où la souffrance semble être à son paroxysme. C'est au moment où ça devient le plus chaud, où on ne se sent plus la force de continuer. C'est à ce moment-là que Dieu choisit de nous sortir de là. C'est au moment où ça devient pénible, où on sent qu'on n'en peut plus, que le Seigneur nous montre que on ne peut plus. Pharaon avait déjà réduit à l'esclavage des Israélites. La situation ne pouvait pas être pire. Ah bon? Lorsque Moïse a commencé à embêter Pharaon, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, là, tu as le moyen de rendre la chose encore plus pénible. Avant, on fournissait les matériaux pour la construction. Pharaon a dit, maintenant les Israélites, vous allez chercher les matériaux et vous allez continuer à construire. Mais par contre, je ne veux pas que vous ralentissiez le rythme. Vous continuez à construire aussi vite que vous faisiez avant. Plus de travail, même résultat. La situation s'empirait. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a décidé de délivrer son peuple. Quand la situation devenait la plus pénible. Un autre exemple. Lorsque le peuple s'est trouvé pris au piège entre l'armée de Pharaon et la mer de l'autre côté, la situation ne pouvait pas être pire. Là encore,
on est à son paroxysme. Là encore, malheureusement, le peuple qui savait que le Seigneur était là a oublié les promesses de Dieu. Il en est même arrivé à regretter le temps où il était en esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Mieux vaut pour nous cela que mourir au désert. Ils préfèrent être esclaves des Égyptiens. Celui qui aide doit être suffisamment mature pour faire face aux obstacles que vit le frère qui passe par les moments difficiles, lorsque le frère est prêt à baisser les bras. C'est quand ça devient chaud qu'il faut être capable de redoubler d'efforts. Parce que c'est quand ça devient chaud que la fin de l'épreuve est proche. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Enfin, dernière chose, celui qui aide doit être disposé à aider. En lisant l'histoire du peuple d'Israël, en lisant le livre d'Exode, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est l'attitude de Moïse et de Aaron. Je n'ai pas compris. Alors que le peuple est en train de piller sur les corvées, j'ai l'impression que c'est de là qu'ils se trouvaient. Ils vont voir le pharaon dans ce palais, après ils vont tout voir le peuple. Après, ils vont voir le pharaon que du fleuve. Après, ils vont voir le peuple. Je ne les sens pas fatigués, pliés sous le poids des corvées. Personnellement, je me suis souvent trouvé mal à l'aise d'écouter quelqu'un m'exposer ses difficultés. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire, moi qui... Pour moi, tout va bien. Est-ce que c'est juste de lui, de l'encourager? C'est facile pour moi, tout va bien. Le frère et la sœur, ils sont en train de souffrir. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas normal? Finalement, est-ce que je serai en mesure d'aider mon frère, d'aider ma sœur, si moi-même je suis en difficulté? Ben non. Pourquoi un frère en difficulté et voir un autre qui traverse la même difficulté pour avoir de l'aide? Est-ce qu'un aveugle serait capable d'aider un autre aveugle à traverser une route? Ce n'est pas possible. Le chrétien ne peut pas être quelqu'un qui se plaint tout le temps de tout et de rien avec tout le monde. Le Seigneur ne nous a pas dit « Entourez-vous du maximum de personnes. Plus il y a de monde, plus la prière sera exaucée. » Je n'ai pas vu ça là-bas. La puissance de la prière n'est pas proportionnelle au nombre de personnes. Et d'ailleurs, comprenons que personne ne serait tenté d'aller voir quelqu'un pour avoir conseil si cette personne est dans la difficulté. Le chrétien, c'est être dans la joie lorsque ça va. Il n'y a pas de honte à être bien. Il n'y a pas de honte à être dans la joie. Rappelez-vous que Jacques, chapitre 5, verset 13, nous invite, celui qui est dans la joie, à louer Dieu, à chanter. Nous ne devons pas être mal à l'aise dans la joie. Par contre, tout en étant dans la joie, nous devons rester sensibles aux souffrances des autres. Nous devons être attentifs à l'attitude, les émotions, l'impression que le frère ou la soeur qui sont à côté de nous sont en train de transmettre. Parce que lorsque nous sommes dans la joie, cette joie est pour nous une force pour pouvoir aider le frère et la sœur qui sont dans la difficulté. Alors je veux terminer ce message en vous rappelant. Pourquoi le Seigneur nous fait passer par ces épreuves? Ces épreuves sont d'abord pour celui qui va aider. Oui, ça nous sert lorsque nous aidons les autres. La première fois que le peuple s'est plaint auprès de Moïse, oui, ça a commencé à se poser des questions. Il s'est retourné vers le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu envoyé? La deuxième fois que le peuple s'est plaint auprès de Moïse, lorsqu'il était pris au piège entre l'armée de Pharaon et la mer, Moïse ne s'est plus posé de questions. Constatez sa réaction la deuxième fois. Au chapitre 14, verset 13 et 14, il nous dit ceci. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour.
Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous. Tenez-vous tranquille. Vous sentez la différence? La première fois, il a douté. Au bout de la deuxième fois, il avait compris. Moïse avait grandi. Lorsque Dieu m'appelle à aider l'autre, c'est pour me permettre de grandir. En aidant l'autre, j'apprends, je grandis. L'épreuve, bien sûr, est pour ceux qui passent par l'épreuve. Dans Exode, vous allez le voir, si vous en faites la lecture, l'Éternel n'a pas cessé de le répéter à travers l'histoire. Plusieurs fois, elle a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » L'une des raisons de l'épreuve, c'est de nous faire grandir celui qui est comme celui qui est ici. Et enfin, on a tendance à l'oublier. L'épreuve est non seulement pour le peuple de Dieu, mais l'épreuve aussi est là pour le monde. À travers l'épreuve du peuple de Dieu, alors que Pharaon n'arrêtait pas de cesser d'endurcir son cœur, son peuple, les Égyptiens, eux, ils apprenaient à connaître Dieu. Petit à petit, le regard sur les Israélites a changé. Lorsque vous avez l'histoire, vous allez voir qu'à partir de la septième plaie, lorsque Dieu a prévenu Pharaon qu'il allait faire tomber la grêle, et que cette grêle allait tuer hommes, animaux, tous ceux qui allaient se trouver à l'extérieur, vous savez quoi? Eh bien, les serviteurs du Pharaon qui ont entendu ça, ils ont commencé à prendre. Au bout de la septième plaie, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les serviteurs de Pharaon qui ont commencé à craindre l'Éternel, eh bien, ils ont demandé à tous les serviteurs et tous les animaux, rentrez à la maison. Venez. Ils ont commencé à redouter le Seigneur. À la huitième plaie, les serviteurs eux-mêmes ont demandé à Pharaon, laisse le peuple s'en aller. Ils commençaient à connaître les serviteurs. Vous vous rendez compte des serviteurs qui disent on va quoi faire? Ça ne se fait pas. Mais eux, ils commençaient à connaître le Seigneur. Et enfin, vous savez comment les Israélites ont quitté l'Égypte? Ils ont quitté l'Égypte, pardon, riches. Pourquoi? D'où venaient ces richesses? Ce sont les Égyptiens qui ont donné leurs richesses. Parce que les Égyptiens avaient eux aussi compris ce qui est l'Éternel. Lorsque nous passons par l'épreuve, le monde aussi nous voit. Et si nous nous apprenons, le monde aussi apprend de nos épreuves. Parce que lorsque nous allons sortir de nos épreuves, lorsque le Seigneur nous sort des épreuves, et lorsque nous allons pouvoir louer notre Dieu pour dire merci, ceux qui nous entourent et qui nous connaissent, ils voient aussi les côtes à laquelle nous sommes. Ils voient notre attitude et ils apprennent qu'il est l'Éternel. Alors je vais terminer en vous rappelant ce verset de Jacques chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière est une grande efficacité. Dans la famille de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour surmonter nos difficultés. Ce n'est pas tout de vivre dans la joie sans se soucier des autres. Celui qui est fort doit pouvoir aider celui qui est faible. Celui qui est affaibli doit pouvoir compter sur celui qui est en position de force. Mais attention, tout le monde n'est pas en mesure d'aider l'autre. Nous devons y être préparés. Nous devons le montrer à travers notre attitude que nous sommes en mesure de soutenir quelqu'un. Alors la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est comment te vois-tu? Vois-tu en toi quelqu'un de mature? Un homme, une femme de foi? Quelqu'un de réfléchi, de sage? Quelqu'un que Dieu pourrait utiliser pour aider lorsqu'on passe par des moments difficiles? Es-tu capable de faire preuve de persévérance pour continuer à lutter avec ton frère, même quand celui-ci se met à douter? Es-tu en mesure de prier sans cesse jusqu'à ce qu'il sorte de sa difficulté?
Dans l'église, il y a parmi nous des personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Qui n'osent pas se tourner vers quelqu'un, de peur de tomber sur une mauvaise personne. De peur d'être jugé. De peur de revivre une mauvaise expérience après l'avoir fait une première fois et avoir été déçu. Nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur nous a donné une famille afin que nous puissions compter les uns sur les autres. Et nous l'avons lu dans nos études du livre de Jacques, que nous sommes invités à dompter cette langue qui des fois fait plus de mal que de bien. Dans l'Église, il y a de ceux qui veulent faire de l'aide qu'on souhaite leur apporter. Par honte, par timidité, je le sais. Cela ne doit pas être le cas chez nous. Je peux avoir besoin de vous. Et demain, ce sera vous peut-être qui aurez besoin de moi. Nous sommes une famille. Et il n'y a aucune, et je dis bien, aucune raison de s'enorgueillir d'avoir été capable d'aider quelqu'un. Oui, moi j'ai aidé un tel. Ah oui, moi j'ai aidé un tel. Aaron a participé à la délivrance du peuple d'Israël. Pourtant, c'est ce même Aaron qui a fait le veau d'or quelque temps après. Moïse a participé activement à la délivrance du peuple. Pourtant, c'est Moïse qui, dans une colère, a frappé un rocher, alors que Dieu lui a juste demandé de lui parler à ce rocher. Et Moïse n'a pas pu entrer dans le pays. Aucune raison de s'en recueillir. Frères et sœurs, j'aimerais que ce matin vous retenez une chose. C'est que s'aider les uns les autres, cela fait partie de notre mission. Je terminerai en répétant le verset de Galates, chapitre 6, verset 8. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Soyez bénis. Je prie avec vous avant de laisser la chair. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier parce que tu fais tout parfaitement. Tu n'oublies aucun détail. Tu nous ouvres les yeux. Tu nous fais grâce de ta présence chaque jour à nos côtés. Et tu nous as donné une famille. Une famille sur laquelle nous pouvons compter. Une famille avec laquelle nous pouvons partager des moments de joie. Pour te louer, t'adorer, comme nous l'avons fait ce matin. Une famille sur laquelle nous pouvons compter aussi lorsque nous passons par des moments difficiles. Tu nous l'as dit. Nous allons passer par la persécution. Nous allons passer par des moments difficiles. Tu nous as prévenu qu'il y a un ennemi qui rôde et qui veut nous faire tomber. Je te remercie pour cette famille que tu nous as donnée. Parce que nous ne sommes pas seuls à lutter contre cet ennemi. Lorsque les moments deviennent difficiles, je peux compter sur mes frères et sœurs pour pouvoir lutter avec moi, à mes côtés, pour faire battre en retraite l'ennemi. Je te remercie aussi parce que tu vas m'outiller et tu vas outiller chacun d'entre nous pour que les frères et sœurs puissent compter sur chacun d'entre nous pour avoir l'aide dont ils ont besoin. Parce que c'est la mission de chacun d'entre nous. Nous sommes chacun un membre à part entière, capable en s'appuyant sur toi d'aider les autres. Nous voulons être cette armée qui marche unie, sans abandonner le plus faible qui passerait par des moments difficiles. Mais tous ensemble, porter les fardeaux les uns les autres, afin d'avancer tous ensemble, avec toi qui es à la tête de notre armée. Père, je te rends gloire parce que tu es toutes choses à merveille. Je te remercie, Père. Passe ta main sur cette famille que tu nous as donnée. Remplis-nous de ton Saint-Esprit dont nous avons tant besoin. Père, je te prie de passer, d'agir et de nous transformer, afin que nous puissions avoir chaque jour notre cœur le souci les uns des autres pour avancer tous ensemble. Gloire au Seigneur Dieu. Amen.
Amen.
Mais bon, dis-moi.